La chronique dans ce temps-là, avec Philippe Basque, une invitation du village historique acadien.
On pourrait dire ce matin, c'est une multi-chronique parce qu'il y a plusieurs sujets que Philippe
Effectivement. Bonjour Philippe.
Et bonjour à vous deux.
Nous allons débuter cependant avec la semaine du patrimoine qui a lieu cette semaine.
Oui, c'est ça, la semaine du patrimoine a commencé dimanche dernier. Puis à Tracadie, il y avait la journée du patrimoine où est-ce qu'ils organisent une conférence, puis plein de tables avec différents intervenants, puis différents associations comme le Musée de Tracadie, la Société historique Nicolas Denis, je pense la librairie du coin. Il y avait un groupe de patrimoine aussi qui faisait comme pas de l'artisanat, mais des métiers d'autrefois qui conservent ça. Fait qu'il y avait beaucoup de kiosques comme ça. Puis ils faisaient aussi un repas traditionnel qui était un bouillon au poulet, là, qui était un fricot au poulet. Mm-hmm. Fait que ça commence avec la messe, tu as le bouillon, après ça, tu as la conférence qui était par Clarence Le Breton qu'on a parlé de la semaine dernière. Ça a bien été. Et puis, dans le public, on a aussi le Musée acadien à Caraquet qui a fait une mini-expo. Ils font ça souvent, je pense, pratiquement à toutes les semaines du patrimoine. Ils vont à la bibliothèque de Caraquet. Puis là, tout de suite, il y a une mini-exposition sur la Convention des Acadiens de 1905. Puis ça avait lieu à Caraquet. Et puis, la Convention nationale, c'est là où est-ce qu'on discutait de différents sujets qui concernaient l'Acadie de cette époque-là. Ça a commencé dans les années 1880. Puis dans ce temps-là, bien, on s'avait doté d'une fête nationale, par exemple, le 15 août. Puis après ça, on avait été dans une autre convention, puis on avait adopté le drapeau acadien, par exemple. Puis là, rendu en 1905, un des débats dans le temps, c'était d'avoir un évêque acadien francophone, parce que l'Église était beaucoup importante dans ce temps-là. Mm-hmm. Et puis, on voulait avoir un évêque qui parlait français, qui était d'origine acadienne. Là. Fait ça, c'est en 1905, la convention. Puis le premier évêque va être en 1912 au diocèse de Saint-Jean. Puis dans ce temps-là, bien, les diocèses étaient beaucoup plus gros, là, comme le diocèse de Chatham à l'époque, là, qui est rendu à Bathurst maintenant. C'était tout le nord du Nouveau-Brunswick au complet, là, jusqu'au Madawaska. Puis lui, de Saint-Jean, c'était comme tout le sud quasiment au complet. Là. Puis ça montait jusqu'au comté de Kent, puis ça allait comme tout le reste du Nouveau-Brunswick. Là. Ça montait pas mal haut dans le comté de Carleton, Victoria, par là, dans ce coin-là, comme Grand Sault. Je ne sais pas trop où sont les limites. Mais on voulait avoir quelqu'un qui représentait le peuple acadien, parce que c'était toujours des Irlandais anglophones qui étaient à ces postes-là. En tout cas, il y a une exposition. Si vous êtes dans la région de Caraquet, faites un petit saut à la bibliothèque de Caraquet.
Mais Philippe, qui a été nommé évêque francophone, finalement, le premier acadien?
C'est un Monseigneur Leblanc, un Monseigneur Édouard Leblanc. Okay. Lui a été nommé là en 1912, et puis il va être là jusqu'à son décès en 1935. Puis moi, j'ai rencontré un type qui avait travaillé pour lui dans les années 30, que j'ai interviewé. Puis il me disait qu'il avait rencontré sa femme dans ce temps-là aussi, dans ces années-là. Puis il s'avait éventuellement marié avec elle. Puis lui, c'est un employé de la ferme. Parce que à cette époque-là, les évêques, puis les prêtres, puis les paroisses, souvent, ils avaient des fermes pour nourrir justement les gens qui vivaient au presbytère ou à l'évêché. Puis souvent, ces places-là, ils accueillaient beaucoup de monde. Souvent, il y avait les parents ou des frères et sœurs de l'évêque ou du prêtre qui vivaient là. Il y avait des servants, il y avait des ménagères, des gens qui travaillaient sur la ferme. Enfin, on avait comme un entourage. L'évêque ou le prêtre, là, il y avait comme son entourage. Il y avait des vicaires, il y avait des diacres, il y avait toutes sortes de monde de même. Là. Fait que ça prenait comme une ferme. Puis ce monsieur-là que j'ai rencontré, qui était originaire de Paul-André, avait travaillé pour cet évêque-là.
Okay.
L'autre sujet, c'est les écoles. Là. Je suis en plein dans ma tournée d'école. Puis,
Vous faites beaucoup de présentations, là?
Oui, comme là, j'étais à Négouac hier pour toute la journée, puis avant ça, j'étais à Tracadie. Là, aujourd'hui, après la chronique, je m'envoie à Bertrand. Puis là, ça paraît qu'il annonce une tempête demain, puis après-demain. Dans les écoles, là, les enfants, ça parle de ça. Puis, c'est... en tout cas, tu vois, là, qu'il y a une tempête dans l'air. Puis,
un peu moins de discipline?
Moi, ça va, toi, c'est quand même assez
bien. Oui, ils sont attentifs, oui.
Oui, ils sont attentifs, ils sont énervés parce qu'il y a mon sujet des fois. Puis là, ça m'interrompt, ça lève les mains, ça veut parler. Puis surtout la présentation sur les légendes, puis la superstition, puis des légendes de sorcellerie là, en Acadie. Ça les intéresse bien gros, les plus vieux niveaux. Là. Puis là, ils racontent les histoires qu'ils connaissent. Puis souvent, on voit que lorsqu'ils parlent de légendes qu'eux connaissent, ils sont influencés soit par le cinéma, ou par les séries télé.
Harry Potter?
Ouais, Harry Potter, peut-être. Mais il parle beaucoup de Skinwalker, là, puis des fois, il mélange les cultures, les Anglais, les francophones, les autochtones. Fait que tu vois qu'il y a où est-ce qu'il y a leurs influences. Parce que moi, je me limite à juste ce qui était d'origine acadienne, parce que si j'allais pour tout le monde au complet, des légendes, il y en aurait tout partout. Là. Mm-hmm. Fait que ça, ils aiment beaucoup ça. Puis hier, j'ai fait des arbres généalogiques avec les jeunes. Puis ça aussi, ça m'a surpris à quel point ils aimaient ça, ils aiment ça. Hein. On penserait pas que les jeunes aiment la généalogie.
Oui.
Mais moi, j'étais en troisième, quatrième, cinquième année à peu près. Et puis, de présenter comment faire ça. Eux, à cette école-là, ils faisaient déjà en deuxième année. Mais toi, même nous autres, on l'a repris hier. Ils étaient heureux de savoir ça. Puis de voir où est-ce qu'on pouvait aller loin. Là. Il y en a quelques-uns qui à cet âge-là, on ne sait pas tous nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Des fois, on ne sait pas que notre grand-mère ou notre mère a un différent nom de famille du grand-père. Ben, souvent, à cette génération-là, la femme prenait le nom du conjoint.
Oui.
Puis souvent, disons, moi, mon grand-père, ma grand-mère, c'était des Basques. Ben là, des fois, à cet âge-là, on ne réalise pas que la grand-mère, son vrai nom de fille, c'était une Como, par exemple, dans mon cas.
C'est pas une Basque.
Non, là, c'est pas une Basque. Là. C'est fait ça, c'est des petits détails, des fois, qu'ils retrouvent. Puis là, ils peuvent mettre ça dans leur arbre généalogique. Puis là, ils étaient tous contents de faire la structure de l'arbre généalogique, puis trouver de l'histoire des familles. Là. Puis en plus, la journée où est-ce que j'étais, moi, un Négoac hier, il fallait s'habiller comme nos grands-parents. Okay. Puis, mais c'est leurs grands-parents à eux autres, ils ont juste comme dans la soixantaine. Là. Mais dans l'esprit des gens, être habillé comme une mémé ou un pépé, c'est d'avoir une canne, puis un walker, puis être grisonné, puis...
OK, c'est l'image qu'ils se font.
Des chemises calottes. Aujourd'hui, c'est la chemise carottée. Ils portent toutes des chemises carottées à Négoac aujourd'hui. Là, c'est des chemises carottées, des bretelles, des gens qui marchent tout croche. C'est comme l'image de la grand-mère. Mais la grand-mère dans la cinquantaine, soixantaine, qui est comme, je ne veux pas pointer du monde du doigt là, quand on parle à la radio un matin. Là. Il y a du monde de cet âge-là. Là, fait que c'est comme de voir ça, le style vestimentaire. Mm-hmm. C'est un peu comme si on habillait les gens, pas comme au village acadien, là. Mais proche, mais tu sais, les gens de 50, 60 ans, ils sont habillés à la mode aujourd'hui. Là.
Ben,
mais ça faisait comique de voir ça. Il y en a qui étaient vraiment habillés comme dans le vieux temps. Il y en a d'autres qui étaient habillés comme leurs grands-parents actuels. Là. Mais ils ont bien aimé ça, cette journée-là. Puis, les horaires des différentes écoles à Tracadie, c'était la même chose. Quand j'étais là lundi, eux, ils ont toute une journée d'activité. Ils ont des repas traditionnels à l'école. Ils peuvent manger du fricot. Hier, c'était de la mioche puis du ballonné. Fait que
c'est bien de faire ça, hein, pour que les jeunes aient un sentiment d'appartenance à une fierté là, de leurs ancêtres.
Oui, j'ai vu dans d'autres écoles aussi qu'ils font des mini tintamarres. Puis il y a une journée souvent qui est aux couleurs de l'Acadie. C'est tout par rapport au patrimoine ou à la culture. Là. Fait la semaine du patrimoine, et c'est bien pour ça. Puis mon dernier sujet de la journée, c'est...
La Saint-Valentin?
Oui, vendredi, c'est la Saint-Valentin. J'essaie de penser à quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Puis dans une de mes présentations que je fais, il y a les signes de l'amour, puis il y a les signes du bonheur ou les signes de la chance. Là. Fait, là-dedans, j'ai pris ça dans divers livres ici et là que les gens disaient ça, c'était pour... Ça représentait l'amour. Ça représentait la passion ou des choses de même. J'ai essayé de trouver le lien. Des fois, il y a des affaires qui... On ne sait pas trop qu'ils prennent ça. Il y a des choses qui sont plus anciennes. Il y a des choses que je pense sont plus modernes aussi.
Comme quoi?
Parce que il y a des affaires qui ne se trouvaient pas en Acadie dans les années 1800, comme un éléphant, par exemple.
Pour la chance?
Oui, pour la chance, puis pour l'amour, puis pour... l'éléphant, c'est quelque chose qui est social aussi. Hein. Tout ce qui était les animaux sociaux ou en groupe, c'était souvent des symboles d'amour ou d'amitié. Là. Comme je pense à l'hirondelle, par exemple. L'hirondelle, supposément qu'elle a juste un partenaire toute sa vie. Alors, l'hirondelle, qui est un bel petit oiseau, ça fait romantique. Ça, c'est un symbole d'amour. Là.
Mm-hmm.
Le cochon revient souvent aussi. Un animal, c'est un animal social, ça, c'est domestiqué. Il y a la couleur rose, rosacée un petit peu, hein, un cochon. Ouais. Fait que ça aussi...
As-tu juste une conjointe, tu aussi? J'en doute.
on se traite de cochon, mais tu sais, il y a ce côté-là aussi, là, qui peut être mignon, là.
Oui.
Tu sais, là, il y a d'autres choses aussi qu'on peut se traiter de cochon, mais on va rester dans l'amour et dans la politesse.
Oui, oui.
Évidemment, le symbole le plus populaire dans le temps, comme aujourd'hui, c'est un cœur.
Mm-hmm.
Fait que souvent, on pouvait faire des formes de cœur dans différentes choses, dans des moules à beurre, dans des moules à sucre d'érable, à pain d'érable, là. On pouvait sculpter des cœurs dans les meubles, dans les tapis hookés. Fait que ça, c'est un symbole que ça fait longtemps que ça existe pour l'amour, pour la gentillesse. Là. Plus tard, dans les années 1900, là, des fois, on va avoir des publicités dans les journaux pour acheter des bijoux. Fait que là, quand on va avoir plus de moyens, là, on va pouvoir avoir des bijoux. Fait que ça, évidemment, des bijoux, on donne ça aussi. Une clé, ça peut être une clé, tu sais, soit les clés du paradis ou les clés, ça rouvre des portes, ça rouvre le cœur. Ça aussi, c'est dans les symboles. Après ça, tu as différentes plantes, hein, tu as les fleurs, les différentes fleurs, comme des roses ou dans les tapis hockey, tu pourrais mettre des fleurs. Dans les couvertures, quand tu vas commencer à faire des couvertures piquées, là, on va pouvoir mettre des dessins, là, ou des, ben, pas des dessins, mais des images, des fleurs, ça revient, ou des sapins, ça peut être là-dedans. Après ça, le hou, le muguet, le gui, qui n'est pas nécessairement des plantes qu'on a ici à l'état sauvage, là, mais il y en a beaucoup qui remontent comme au Moyen-Âge, là, que c'était des fleurs qui avaient ce symbolisme-là là, de l'amour. Tout ça. Le muguet, par exemple, là, c'était l'homme le déposait le 1er mai. Supposément qu'au Moyen-Âge, le muguet, là, on coupait ça, puis on le donnait à notre madame là, au mois de mai. Les abeilles, hein, les abeilles, le miel, c'est doux, c'est social, les abeilles, c'est en groupe. Le lapin, évidemment, parce que le lapin il est capable de se reproduire vite, fait que ça vient là-dedans, là, les grandes capacités reproductives.
Oui.
Fait que le lapin est un symbole d'amour, puis de ça y va. Et évidemment, des anges, les petits chérubins.
Avez-vous dit ça y va?
oui, à la
fin, c'est. J'étais pas sûr, j'ai coupé d'eau.
Ouais, ça a comme glissé.
On a compris, Philippe.
Ouais.
On a eu la même image mentale, là, c'est correct.
Ouais. Puis Cupidon, évidemment, le Cupidon, des fois, on avait ça dans les Valentins, puis dans les années 1900, ça va devenir populaire. Hein. Le Cupidon, c'est le dieu romain de l'amour. C'est le fils de Vénus et de Mars. Vénus, qui est comme une madame. T'sais. Puis dans le côté grec, c'est Eros. Tout l'érotisme, là, ça vient de là, ce mot-là. Le dieu grec de l'amour, fait le dieu romain de l'amour, on pouvait les utiliser aussi. Là. Puis évidemment, j'ai essayé de voir s'il y avait des aphrodisiaques qu'on avait par ici naturellement. Là. Évidemment, dans les années 1800-1900, c'est pas quelque chose qu'on utilisait tellement. Là. Mais aujourd'hui, ça l'est devenu comme des huîtres, par exemple. Dans la région ici, on avait tout en
oui.
eu des huîtres. Mm-hmm. Fait que ça, quand on fait un repas, dans le fond, romantique, souvent des huîtres, c'est pas quelque chose qu'on mange à tous les jours comme des patates. Fait que des fois, on va utiliser l'huître comme une occasion spéciale.
Patates, pas trop romantique, pas trop aphrodisiaque.
On va manger des patates, là, parce qu'on est obligé, là, mais...
Surtout quand tu fais patates.
les fraises, hein, des fraises en chocolat.
Ah, ben oui!
Le chocolat, c'était rare, puis... les fraises aussi, là, quand on va avoir une industrie là, pour regarder les fraises, mais les fraises, ça a toujours été considéré comme aphrodisiaque, jamais prouvé. Tu sais. Mais c'est soit le cadre qui entoure l'activité dans laquelle on mange ça. Fait que là,
c'est psychologique.
La fraise, ben, c'est rose, c'est un fruit, c'est doux. Hein. Tout ce qui est rouge, le rouge sang, hein, ça fait bouillir le sang.
Les cerises aussi.
Les cerises, oui. Puis par ici, le cocon de mer aussi qu'on avait exporté à un moment donné en Chine, je pense. Il y avait eu un reportage là-dessus comme quoi que c'était aphrodisiaque. Là. Des gens pensaient que ça faisait quelque chose, là, les cocombes de mer. Là. Mais ça ressemble aussi à une certaine chose, là, les cocombes de mer. Puis ça, tu vois sur Internet, il y a toutes sortes de recettes. On peut avoir ça en capsule même, le cocombe de mer qui est séché. Là. On peut avoir ça dans des sacs. En tout cas, j'ai vu toutes sortes de produits là, sur Internet quand je fouillais un petit peu pour ça. Puis je vais terminer avec des potions de livres de sorcellerie aussi, qui a des filtres d'amour. Puis ça, c'est dans le petit Albert là, ou le grand Albert. J'en ai parlé dans une chronique une fois.
Je me souviens.
Puis ce livre-là, on soupçonnait qu'il y avait des gens qui avaient ce livre-là chez eux, le petit Albert ou le grand Albert, qui était une compilation, qui était un livre de sorcellerie qui datait des années 1700. Là, je ne me rappelle plus la date exacte. Mais on soupçonnait des Acadiens d'avoir ces livres-là, puis faire... Des choses pas correctes, comme ensorceler le monde ou à faire des récoltes miraculeuses qu'on soupçonnait d'avoir fait un pacte avec le diable. Puis dans le comté de Kent, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Puis dans la péninsule, la région Chaleur aussi. Mais on n'a jamais retrouvé de livre qui... Tu sais, si les gens avaient ces livres, on aurait dû en trouver un au moins quelque part, mais on n'a jamais trouvé. Mm. On a toujours soupçonné des gens d'avoir ces livres-là. Mais dans les premiers chapitres, quasiment les premiers chapitres du livre, on a plusieurs concoctions là, de fils d'amour. Mais quand on regarde, c'est pour l'amour, là, c'est compliqué. Il n'y a rien de facile là-dedans. Si tu veux ensorceler quelqu'un pour être en amour avec toi,
ça prend plusieurs ingrédients.
C'est de longue haleine. Il y en a un, il faut couper une telle plante que je ne connais pas, moi, qui est probablement juste disponible en Europe le 24 juin.
Oh.
Le 24 juin, c'est comme une journée magique là, parce que c'est le solstice ou l'équinoxe d'été. Là, je ne me rappelle plus si c'est un solstice ou un équinoxe. Je pense que c'est un solstice d'été. Mm-hmm. ça change la saison. Là. Puis le 24 juin, ben, dans le calendrier, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Fait que c'est comme une journée importante. Ben, il fallait couper ça, cette journée-là. Puis là, il fallait sécher cette plante. Puis là, faire plein d'autres affaires avec. Il fallait trouver aussi des rognons d'un animal, je pense un loup ou un castor, trouver des morceaux sur un animal comme ça, tu sais, c'est pas évident à chasser. Ah oui. Fait qu'il y avait, c'était compliqué, là, les fils d'amour, là. Faut vraiment se donner la peine là, pour les faire.
Puis on n'est pas sûr que ça marche en plus.
Non, on n'est pas sûr que ça marche non plus. Exactement.
Hey, bonne semaine du patrimoine, Philippe, et on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à vous et à votre famille.
Merci.
À vous autres, à tout le monde.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs du Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!